Chapitre 8. Adieu au collège. Au cours de ma dernière année à Repton, ma mère me demanda « Aimerais-tu aller à Oxford ou à Cambridge lorsque tu quitteras le collège ?» Il n'était pas difficile à l'époque d'entrer dans l'une ou l'autre de ces grandes universités, du moment que vous en aviez les moyens. « Non, merci, » répondis-je. « Une fois sorti du collège, je veux tout de suite travailler pour une compagnie qui m'enverra dans de merveilleux pays lointains, comme l'Afrique ou la Chine. » Il ne faut pas oublier que les voyages aériens n'existaient pratiquement pas au début des années 30. De l'Angleterre, il fallait environ 2 semaines de bateau pour gagner l'Afrique et environ 5 pour la Chine. C'étaient des contrées lointaines et magiques et personne ne partait si loin pour y passer simplement des vacances. On y allait pour travailler. De nos jours, on peut se rendre n'importe où dans le monde en quelques heures et plus rien n'est fabuleux. Mais c'était bien différent en 1933. Au cours de mon dernier trimestre, je posais ma candidature pour un emploi uniquement dans des firmes dont j'étais sûr qu'elles m'enverraient à l'étranger. Il s'agissait de la Shell Company, service Orient, de l'Imperial Chemicals, service Orient, et d'une compagnie finlandaise de charpente dont j'ai oublié le nom. Ma candidature fut acceptée par l'Imperial Chemicals et par la compagnie finlandaise, mais pour je ne sais quelle raison, je voulais par-dessus tout entrer à la Shell. Lorsque le jour vint pour moi de me rendre à Londres pour m'y présenter, mon régent de maison me déclara que c'était ridicule de ma part de vouloir même essayer. « La section Orient de la Shell, c'est la crème de la crème, » dit-il. « Il y aura au moins 100 candidats et pas plus de 5 postes disponibles. Personne n'a aucune chance, à moins d'avoir été prévôt du collège ou prévôt de la maison, et tu n'es même pas préfet de classe. » Il avait raison en ce qui concernait le nombre de candidats. 107 jeunes gens attendaient d'être interviewés lorsque j'arrivais au bureau central de la Shell Company à Londres. Et il y avait 7 postes à pourvoir. Je vous en prie, ne me demandez pas comment j'obtins ces postes, car moi-même je l'ignore. En tout cas, je l'obtins bel et bien. Et lorsqu'à mon retour au collège, j'annonçais la bonne nouvelle à mon régent de maison, il n'éprouva pas le besoin de me congratuler ou de me serrer chaleureusement la main. Se détournant, il marmonna « Tout ce que je peux dire, c'est que je suis bien content de ne pas posséder d'action de la Shell. » Je ne me souciais plus de ce que pouvait bien penser mon régent de maison. J'étais paré. J'avais une carrière. C'était le rêve. J'allais quitter le collège à jamais en juillet 1933 et entrer à la Shell Company 2 mois plus tard, en septembre. J'aurais exactement 18 ans. Je serais nommé stagiaire au service Orient au salaire de 5 livres par semaine. Cet été-là, pour la première fois de ma vie, je n'accompagnais pas la famille en Norvège. Je ne sais pourquoi, mais il me semblait que je devais me livrer à une dernière escapade avant de devenir un homme d'affaires. Aussi, durant mon dernier trimestre, pendant que j'étais encore au collège, je m'inscrivis pour le mois d'août sur les listes d'une organisation appelée « Société d'exploration des collèges ». Le directeur avait accompagné le capitaine Scott lors de sa dernière expédition au pôle Sud et il se proposait d'emmener un groupe d'élèves explorer Terre-Neuve durant les vacances d'été. Cela promettait d'être distrayant. Je dis adieu à jamais à Repton, sans le moindre regret, et gagnai le Kent avec ma motocyclette. Cette splendide machine était une Ariel 500 cm3 que j'avais achetée l'année précédente pour 18 livres, et pendant mon dernier trimestre à Repton, je la gardais en secret dans un garage, le long de la route de Wilmington, à environ 3 km du collège. Le dimanche, je me rendais à pied au garage et, affublé d'un casque, de lunettes, d'un vieil imperméable et de bottes en caoutchouc, j'explorais tout le Derbyshire. C'était amusant de traverser Repton dans un grondement de tonnerre sans être reconnu de personne, de frôler en trombe les maîtres qui déambulaient dans la rue ou de décrire des courbes autour des arrogants buzzers du collège accomplissant leur promenade dominicale. Je tremble rétrospectivement à l'idée de ce qui serait arrivé si j'avais été démasqué, mais cela n'arriva jamais. Ainsi donc, le dernier jour du trimestre, je filais joyeusement comme une flèche, laissant à jamais derrière moi le collège. Je n'avais pas tout à fait 18 ans. Je ne passais que 2 jours à la maison avant de repartir pour Terre-Neuve avec les explorateurs des collèges. Notre navire quitta Liverpool au début d'août et il nous fallut 6 jours pour arriver à St. John's. Une 30aine de garçons de mon âge participaient à cette expédition, sous l'égide de 4 adultes expérimentés. Mais Terre-Neuve, ainsi que je pus sans délai le constater, n'était pas un pays bien séduisant. Pendant 3 semaines, nous arpentâmes péniblement cette terre désolée en portant d'énormes charges sur notre dos. Nous trimballions des tentes, des tapis de sol, des sacs de couchage, des casseroles, des provisions, des haches et tout ce dont on peut avoir besoin dans un pays inhabitable et inhospitalier et dont il n'existait aucune carte. Mon propre sac, je le sais, pesait plus de 30 kilos et tous les matins, il fallait qu'un camarade m'aide à le hisser sur mon dos. Nous vivions de pemmican et de lentilles et les 30 d'entre nous qui participèrent à ce que nous appelâmes la longue marche, du nord au sud de l'île, aller-retour, souffrirent beaucoup du manque de nourriture. Je me rappelle parfaitement que nous nous livrâmes à des expériences en mangeant du lichen et de la mousse bouillie pour améliorer l'ordinaire. Mais ce fut une véritable aventure et j'en revins endurci, en pleine forme et prêt à affronter n'importe quoi. Suivirent alors 2 années d'entraînement intensif à la Shell Company en Angleterre. Nous étions 7 stagiaires cette année-là et chacun d'entre nous était préparé avec soin pour promouvoir la majesté de la compagnie dans un lointain pays tropical. Nous passâmes des semaines à la gigantesque raffinerie Shell de Haven où un instructeur nous enseigna tout ce qu'on pouvait apprendre sur le mazout, l'huile lourde, le gasoil, l'huile de graissage, le pétrole et l'essence. Après quoi, nous passâmes des mois au bureau central de Londres à apprendre le fonctionnement interne de la grande compagnie. J'habitais toujours à Bexley, dans le Kent, avec ma mère et mes 3 sœurs, et tous les matins, 6 jours par semaine, samedi compris, je m'habillais sobrement d'un complet gris foncé, prenais mon petit déjeuner à 7h45, puis, un feutre marron sur la tête et un parapluie roulé à la main, je montais à bord du train de 8h15 à destination de Londres, avec tout un essaim d'autres hommes d'affaires également vêtus de sombre. Je n'éprouvais aucune difficulté à me plier à leurs habitudes. Nous étions tous des personnages dignes et sérieux prenant le train pour gagner nos bureaux dans la cité de Londres, où chacun d'entre nous, du moins nous le pensions, s'occupait de hautes finances et d'autres opérations économiques capitales. La plupart de mes compagnons étaient coiffés de melons et quelques-uns, comme moi, portaient des feutres mous, mais pas un seul d'entre nous dans ce train, en cette année 1934, ne circulait tête nue. Cela ne se faisait pas. Et pas un d'entre nous, même par la journée la plus ensoleillée, ne se déplaçait sans son parapluie roulé. Cet objet était l'insigne de notre profession. Sans lui, nous nous sentions nus. C'était également un signe de respectabilité. Les cantonniers et les plombiers ne se rendaient jamais à leur travail munis d'un parapluie. Les hommes d'affaires, oui. J'étais heureux. Vraiment heureux. Je commençais à me rendre compte que la vie était toute simple, si l'on avait une routine à suivre avec des horaires fixes, un salaire fixe et un minimum d'occasion de penser de façon originale. La vie d'un écrivain est vraiment infernale comparée à celle d'un homme d'affaires. L'écrivain doit se forcer à travailler. Il doit s'imposer ses propres horaires. Et s'il ne va pas de la journée s'asseoir derrière son bureau, personne n'est là pour le lui reprocher. Si c'est un romancier, il vit dans la peur. Chaque journée nouvelle exige des idées nouvelles et il n'est jamais sûr de les trouver au rendez-vous. Après 2 heures passées à écrire une œuvre de fiction, le romancier est absolument vidé de sa substance. Pendant ces 2 heures, il s'est trouvé ailleurs, à des kilomètres, dans un endroit différent, en compagnie de gens totalement différents, et l'effort qu'il doit fournir pour revenir dans son cadre habituel est épuisant. Il en éprouve presque un choc. L'écrivain sort hébété de son cabinet de travail. Il a envie de boire un verre, il en a besoin. Le fait est que presque tous les romanciers dans le monde entier boivent davantage de whisky qu'il n'est bon pour leur santé. Ils boivent pour se donner confiance, espoir et courage. Faut être fou pour devenir écrivain. Celui qui choisit cette profession n'a qu'une seule compensation, une absolue liberté. Il n'a pour seul maître que son âme, et c'est là pour lui, j'en suis sûr, un motif déterminant. Nous étions fiers d'appartenir à la Shell. Après 12 mois passés au bureau central, les stagiaires furent expédiés dans diverses succursales de la maison en Angleterre pour étudier l'art de la vente. Je fus envoyé dans le Somerset et y passai plusieurs glorieuses semaines à ravitailler en pétrole des vieilles dames dans les villages isolés. Mon camion-citerne était muni d'un robinet à l'arrière et quand j'arrivais à Shepton Mallet ou Midsummer Norton ou Peace Down St. John ou Hinton Blewett, ou Temple Cloud, ou Chew Magna, ou Wish Camp Flower, les vieilles dames et les jeunes filles, entendant le ronflement de mon moteur, sortaient de leur cottage munis de brocs et de seaux afin d'acheter un gallon de pétrole pour leurs lampes et leurs radiateurs. Les tournées de ce genre sont distrayantes pour un jeune garçon. Personne ne risque de sombrer dans la dépression nerveuse ou de succomber à une crise cardiaque en vendant du pétrole à d'aimables campagnards du Somerset par une belle journée d'été. Puis soudain, en 1936, je fus appelé au bureau central de Londres. Un des directeurs souhaitait me voir. « Nous vous envoyons en Égypte », me déclara-t-il. « Ce sera un contrat de 3 ans, suivi d'un congé de 6 mois. Tenez-vous prêt à partir d'ici 1 semaine. » « Oh, mais monsieur, m'exclamai-je, pas l'Égypte. Je n'ai vraiment pas envie d'aller en Égypte. » Le grand homme eut un haut-le-corps dans son fauteuil, comme si je lui avais expédié en pleine figure une platée de pochée. « L'Égypte, commença-t-il d'une voix lente, est l'un de nos secteurs les plus agréables et les plus importants. C'est une faveur que nous vous accordons en vous envoyant là, plutôt que dans un endroit infesté de moustiques, en plein pays marécageux. » Je demeurai silencieux. « Puis je vous demandais pourquoi vous ne voulez pas aller en Égypte, » reprit-il. Je savais parfaitement bien pourquoi, mais ne voyais pas comment le lui expliquer. Ce à quoi j'aspirais, c'était la jungle, les lions, les éléphants, les hauts cocotiers se balançant au-dessus de plages argentées, et l'Égypte était dépourvue de tout cela. L'Égypte était un pays désertique, une terre nue, sableuse, pleine de tombes, de reliques et d'Égyptiens, et rien de tout cela ne m'inspirait. « Qu'est-ce que vous reprochez à l'Égypte ?» insista le directeur. « bégayai-je, c'est trop poussiéreux, monsieur. » Il me dévisagea avec stupeur. « Trop quoi ? » s'exclama-t-il. « Poussiéreux, dis-je. »« Poussiéreux ! » hurla-t-il. « Trop poussiéreux ! Je n'ai jamais entendu une telle absurdité !» Un long silence s'ensuivit. Il allait me dire, c'était certain, de prendre mon manteau et mon chapeau et de quitter l'immeuble à jamais. Mais il n'en fit rien. C'était un homme d'une grande gentillesse qui s'appelait M. Godbert. Il eut un profond soupir et se passa une main sur les yeux. « Très bien, dit-il, comme vous voudrez. Redfern ira en Égypte à votre place et vous devrez accepter le prochain poste que l'on vous offrira, poussiéreux ou pas, comprenez-vous ? Oui, monsieur, je me rends compte. Si le prochain poste vacant se trouve être en Sibérie, il vous faudra le prendre. Je comprends fort bien, monsieur, lui dis-je, et merci infiniment. Moins d'une semaine plus tard, M. Godbert me convoqua de nouveau dans son bureau. Vous partez en Afrique orientale, m'annonça-t-il. Hurrah ! Vociférai-je en sautant de joie. C'est merveilleux, monsieur, c'est fantastique, formidable ! Le grand homme sourit. Un pays très poussiéreux également, dit-il. Des lions, m'écriai-je, et des éléphants, des girafes, des cocotiers partout. Votre bateau part de Londres dans 6 jours, reprit-il. Vous débarquerez à Mombasa. Votre salaire sera de 500 livres par an et vous resterez là-bas 3 ans. J'avais 20 ans. J'allais m'embarquer pour l'Afrique orientale, où je déambulerai en short kaki coiffé d'un casque colonial. Je nageais en pleine extase. Je me précipitais à la maison pour prévenir ma mère. J'étais son fils unique et nous étions très proches l'un de l'autre. La plupart des mères, confrontées à une situation de cet ordre, auraient laissé percer une certaine détresse. 3 ans, c'est long, et l'Afrique était bien loin. Il n'y aurait aucune visite durant cette période. Mais ma mère se garda de manifester la moindre émotion susceptible de ternir ma joie. « Oh, bravo, mon petit !» s'écria-t-elle. « Voilà une merveilleuse nouvelle, et c'est justement là que tu voulais aller, n'est-ce pas ?» La famille tout entière m'accompagna à Londres pour assister à mon embarquement. C'était pour un jeune homme une aventure extraordinaire à cette époque que de partir travailler en Afrique. Le voyage à lui seul devait durer 2 semaines, et nous allions naviguer dans le golfe de Gascogne, franchir Gibraltar, traverser la Méditerranée, passer par le canal de Suez et la mer Rouge, faire étape à Aden et arriver enfin à Mombasa. Quelle perspective enivrante! Je partais pour le pays des palmiers et des cocotiers, des récifs de corail, des lions, des éléphants et des serpents à la morsure mortelle. Un chasseur blanc qui avait vécu 10 ans à Mwanza m'avait dit que si l'on était mordu par un mamba noir, on mourait dans l'heure en se tordant de souffrance l'écume aux lèvres. Mon impatience ne connaissait pas de bornes. Je l'ignorais certes à ce moment-là, mais en vérité je partais pour une période bien plus longue que les 3 années prévues. Car la Seconde Guerre mondiale allait éclater avant qu'elle ne se fût écoulée. Je n'en vécus pas moins auparavant mon aventure africaine. J'eus droit à la chaleur torride, aux crocodiles, aux serpents, aux longs safaris à l'intérieur du pays, vendant le pétrole de la Shell aux hommes qui dirigeaient les mines de diamants et les plantations de sisal. J'appris comment fonctionnait une extraordinaire machine appelée une décortiqueuse, un nom qui m'a toujours enchanté, qui déchiquetait pour les transformer en fibres les grandes feuilles épaisses des sisales. J'appris à parler swahili et à secouer mes bottes le matin pour en faire tomber les scorpions. J'appris quel effet cela faisait d'attraper la malaria et d'avoir 42 fièvres pendant 3 jours. Et quand la saison des pluies arriva, que des trombes d'eau inondèrent les petites routes de terre, j'appris à passer des nuits suffocantes à l'arrière d'une station wagon dont j'avais relevé toutes les vitres pour me protéger des maraudeurs de la jungle. Surtout, j'appris à me débrouiller tout seul, comme aucun jeune n'aura jamais la moindre chance de le faire en restant au cœur de la civilisation. Quand la guerre éclata en 1939, je me trouvais à Dar es Salaam, et de là je gagnais Nairobi pour m'engager dans la RAF. 6 mois plus tard, j'étais pilote de chasse et pilotais des Hurricanes tout autour de la Méditerranée. Je volais au-dessus du désert de Libye, au-dessus de la Grèce, de la Palestine, de la Syrie, de l'Irak et de l'Égypte. J'abattis quelques avions allemands et, abattu moi-même en flammes, réussis à m'extraire de mon appareil et fus sauvé par un groupe de courageux soldats rampant à plat ventre dans le sable. Je passai 6 mois à l'hôpital d'Alexandrie et, lorsque j'en sortis, je repris l'air. Mais tout cela est une autre affaire, sans rapport avec l'enfance, l'école, les boules magiques, les cadavres de souris, les Bozers ou les grandes vacances dans les îles de Norvège. C'est une histoire totalement différente. Et, si tout va bien, je me hasarderai peut-être à la raconter, un de ces jours.